Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons passer à la lecture des textes de la prédication. La première lecture est dans Colossiens, chapitre 3, les versets 18 à 25. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. » Et un verset dans le livre des Actes, au chapitre 20, le verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et puis, un dernier passage dans Romains, chapitre 13, le verset 1 à 8. Romains 13, chapitre 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Eh bien, fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe, à qui vous devez la taxe, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi.
Sans écran, impossible de voir ce qu'il y a dans la mémoire d'un ordinateur. De même, sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre avec le cœur ce qu'il y a dans l'enseignement biblique. Nous voulons donc regarder l'écran du Saint-Esprit ce matin. Qu'il soit celui qui nous guide dans la compréhension de sa parole. Comme Marc l'a dit tout à l'heure, nous continuons la petite série intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Qui nous permet d'aborder des sujets qui sont suscités par la situation sanitaire que nous vivons. Et la dernière fois, nous avons réfléchi sur la crainte. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'obéissance. À qui devons-nous obéir? Cette question qui pouvait sembler simple est peut-être même devenue plus compliquée dans cette situation. Mais ce n'est pas le coronavirus qui l'a rendue compliquée. Simplement, le coronavirus est un révélateur de la situation actuelle dans le domaine de l'autorité. Alors, nous pensions peut-être encore que la société dans laquelle nous vivons était encore bien ancrée dans les principes bibliques hérités d'un passé influencé par le christianisme. Mais ce que le coronavirus révèle encore un peu plus amène un réveil plutôt douloureux. Les structures d'autorité qui nous permettent de savoir à qui obéir ne sont plus autant ancrées dans la parole de Dieu, l'autorité suprême qui nous indique ce qu'il veut dans sa parole. Les appels à la désobéissance civile, les rébellions face aux ordres des autorités font réfléchir. Mais faut-il vraiment se demander s'il faut désobéir? Comment Jésus a-t-il vécu l'obéissance envers les différentes autorités auxquelles il était appelé à se soumettre en tant qu'homme? Eh bien, ce sont ces sujets que nous allons tenter d'aborder ce matin en trois points dans cette prédication de réflexion. Le premier point sera la structure d'autorité biblique. La structure d'autorité biblique. Deuxièmement, nous verrons que nous sommes toujours appelés à obéir. Nous sommes toujours appelés à obéir. Et troisième partie, Jésus a toujours obéi. Nous commençons par cette première partie, la structure d'autorité biblique. Dieu a établi une structure d'autorité qui, lorsqu'elle est vécue selon ses critères, est une bénédiction, une protection, un encouragement au bien, un cadre propice au développement et à l'épanouissement. Ça, il faut bien le saisir, hein. Dieu a établi une structure d'autorité qui, lorsqu'elle est vécue selon ses critères, est une bénédiction, une protection, un encouragement au bien, un cadre propice au développement et à l'épanouissement. Et nous trouvons principalement quatre domaines d'autorité qui se complètent, se soutiennent, mais ne devraient pas prendre la place de l'autre. Pour chaque domaine, il y a un champ d'autorité spécifique non échangeable. Il s'agit de la famille, l'église, l'État, et j'appelle ça l'entreprise ou le lieu de travail. Si jamais sur les petits documents à l'arrière, il y a un petit schéma qui permet un petit peu de visualiser cela. Donc la première structure d'autorité que nous trouvons dans notre vie est la famille. Nous naissons dans une famille. Et la famille, selon la parole de Dieu, c'est un homme, le père, une femme, la mère, qui sont mariés et qui ont des enfants. Ça, c'est la famille selon la Bible. C'est Dieu qui est à l'origine de cette cellule familiale formée au départ par le couple d'un homme Adam et d'une femme Ève, de qui nous sommes tous issus. Dans la structure familiale, Dieu est l'autorité suprême. Dieu est l'autorité suprême. Et il a donné au mari l'autorité familiale et aux deux parents l'autorité éducative. Il a donné au mari l'autorité familiale et aux deux parents l'autorité éducative. Le couple est sous la mission de Dieu et le mari doit vivre l'autorité dans l'amour, la vérité et le don de soi. Être sous la mission de Dieu, si jamais, c'est une autre manière de parler de la soumission, tout simplement. Et il est possible d'ailleurs que quelqu'un soit sous la mission de Dieu sans le connaître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous allons obéir à des personnes non croyantes, parce qu'elles peuvent être sous la mission de Dieu, même si elles ne le savent pas. Donc à la question de départ, à qui devons-nous obéir? Pour tout ce qui est de la conduite de la famille, il faut obéir à l'homme qui est sous la mission de Dieu. Si l'homme s'écarte de cette mission donnée par Dieu, l'épouse évoquera une autorité supérieure pour agir différemment. Pour ce qui est de l'éducation, il faut obéir au père et à la mère à qui Dieu a délégué l'autorité éducative à vivre sous la mission de Dieu. Si nous lisons Éphésiens 5, les versets 33 à 6, verset 1, il est dit ceci, c'est le résumé de cette première partie de structure d'autorité. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc après cette première bonne structure d'autorité, tournons-nous vers une seconde, l'Église. La structure d'autorité de l'Église est simple. Jésus-Christ qui est Dieu est le chef. Jésus-Christ qui est Dieu est le chef, et il délègue une autorité spirituelle aux anciens. Voilà, il délègue une autorité spirituelle aux anciens. On avait déjà une autorité familiale, une autorité éducative, on a une autorité spirituelle ici. Les anciens sont appelés à enseigner, à conduire les membres selon les ordres du chef de l'Église, qui a mis sa volonté par écrit dans la Bible. Le critère de choix des anciens sont donnés dans, vous savez où, 1 Timothée 3 et dans Tite 1. Vous avez les critères qui sont donnés pour les anciens. Et selon la parole de Dieu, ce sont des hommes qui doivent exercer cette fonction soutenue par tous les membres de l'Église. Les autres hommes, les femmes, membres apportent leurs compétences, qui peuvent d'ailleurs même parfois être supérieures à celles des bergers. Les anciens sont appelés à agir dans le domaine spirituel et ils sont sous la mission de Dieu. Les anciens sont donc soumis à Dieu et tenus d'agir avec amour, vérité et don de soi.
1 Pierre 5, 2 et 3 dit ceci, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Et les membres du corps de Christ sont appelés à obéir à leur conducteur et à les suivre sous la mission de Dieu. Hein, parce qu'il est écrit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Donc à la question de départ, à qui devons-nous obéir ? Eh bien pour tout ce qui est spirituel, selon la structure d'autorité mise en place par Dieu, c'est aux anciens qu'il faut obéir, et cela manifeste une obéissance à Dieu. Évidemment, toujours, le fait que l'ancien est sous la mission de Dieu. Dès qu'il s'en écarte, on invoque une autorité supérieure. Troisième structure d'autorité, la structure d'autorité de l'État, qui est simple aussi. Dieu est souverain. C'est Dieu qui est au-dessus de l'État. Quoi que peuvent en dire nos contemporains. Il délègue une autorité civile aux magistrats qui sont tenus de gouverner selon les normes du roi divin. La structure d'autorité d'État est simple, Dieu est souverain, il délègue une autorité civile aux magistrats qui sont tenus de gouverner selon les normes morales du roi divin. Alors des critères de conduite des magistrats sont par exemple donnés dans Deutéronome 17, les versets 14 à 20. Nous voyons aussi dans Romains 13, 1 à 7 leur rôle. Et il est à noter que dans ce texte de Romains 13, 1 à 7, que nous avons entendu tout à l'heure, une expression revient trois fois. Donc dans la Bible, quand on répète des expressions, c'est pour souligner. Et cette expression qui revient trois fois, c'est « au service de Dieu ». L'autorité est au service de Dieu. Et je vais lire avec vous, pour ouvrir vos Bibles, dans 1 Pierre 2, les versets 11 à 17, qui nous parle du rôle des magistrats qui de punir celui qui fait le mal et louer celui qui fait le bien. 1 Pierre 2, 11 à 17, je vous invite à regarder aussi dans vos Bibles. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc à la question de départ, à qui faut-il obéir ? Pour tout ce qui est civil, selon la structure d'autorité mise en place par Dieu, il faut obéir aux magistrats qui sont sous la mission de Dieu, qui sont tenus d'agir avec amour, vérité et don de soi. Et les citoyens sont tenus de les honorer. Quatrième structure d'autorité que Dieu a mis en place concerne l'entreprise ou le lieu de travail. Dieu est l'autorité supérieure de toute entreprise. Dieu est l'autorité supérieure de toute entreprise. Sans la vie qu'il donne, rien ne pourrait exister. Et Dieu a délégué l'autorité dans le travail au patron, que la Bible nomme les maîtres. Voici ce qui est écrit par exemple dans Colossiens 4, verset 11. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Et les textes comme Éphésiens 6, 5 à 8, Colossiens 3, 22, 1 Timothée 6, 1, Tite 2, 9, 1 ou 1 Pierre 2, 19, indiquent l'attitude de l'employé envers son patron. Deux éléments clés, c'est l'honnêteté et le service de qualité, si vous voulez, qui sont relevés dans ces textes. Donc à la question de départ, à qui faut-il obéir dans le cadre du travail ? Il faut obéir à son patron, qui est sous la mission de Dieu. Voilà donc les quatre structures d'autorité que Dieu a mises en place, comme les quatre pieds d'une table. Les quatre doivent être solides, aucun n'est plus long que l'autre, sinon la table n'est pas tellement utilisable. chaque domaine d'autorité a sa responsabilité et ne doit pas empiéter dans le domaine de l'autre. Ce qui est familial doit être géré dans le cadre familial, ce qui est spirituel dans le cadre de l'Église, ce qui est civil dans le cadre de l'État, ce qui est professionnel dans le cadre de l'entreprise. Le coronavirus nous permet de voir plus nettement que nous nous éloignons de ce cadre d'autorité. On le voit plus nettement maintenant encore. Dieu est mis de côté par l'État. C'est très clair. Ça vient toujours plus clair. Et l'État a tendance à prendre la place de Dieu. À d'autres moments de l'histoire, c'était une autre structure d'autorité qui avait tendance à en prendre la place. Ça pouvait être l'Église, ou la famille, ou l'entreprise, ou plusieurs de ceux-là. Mais actuellement, c'est assez fort. Actuellement, l'État déstructure la famille et impose de nouvelles relations familiales, annulant toute autorité à ce niveau, en indiquant que le mariage, c'est autre chose que ce que la Bible dit. L'État veut prendre l'autorité sur l'éducation. Du côté de l'Église, l'État cherche à imposer son fonctionnement, et en fin de compte, désire sans vraiment le dire, mais c'est ce qui est derrière l'adoration du peuple. Dieu étant totalement écarté, ou bien il est simplement mis dans l'Église. Ce n'est pas la structure d'autorité que Dieu a mis en place. Donc la semaine qui vient, cherchons à obéir aux autorités que Dieu a mis en place, en commençant par la famille, l'Église, l'État et l'entreprise, et discernons lorsqu'une autorité voudrait s'imposer dans le domaine qui n'est pas le sien. Vous savez, l'Évangile transforme nos rapports avec toutes les autorités. La grâce enlève toute hostilité. L'amour amène le désir du bien à long terme et la vérité pousse au courage à indiquer la voie divine qui est finalement toujours la meilleure. Mais alors sommes-nous appelés à toujours obéir? C'est notre prochain point. Sommes-nous appelés à toujours obéir? Eh bien, j'ai intitulé le prochain point « Nous sommes toujours appelés à obéir ». Dans la situation sanitaire que nous vivons, certains ont parlé de désobéissance civile. Or, je dois vous avouer que je n'aime pas cette expression. J'aime pas cette expression. Je comprends ce que ça peut signifier, hein. Il s'agit de ne pas obtempérer face à une demande du gouvernement civil à cause d'une allégeance supérieure, ok? Mais au lieu de désobéissance civile, je préfère parler d'obéissance à une autorité supérieure. Obéissance à une autorité supérieure. Ainsi, il n'existe plus de motivation à désobéir, mais uniquement d'une motivation à obéir. Ce qui reste à déterminer, c'est à qui. Mais c'est important cette notion, on va le voir encore par la suite par rapport à l'œuvre de Christ. Nous ne sommes pas appelés à réfléchir comment désobéir. Nous sommes toujours appelés à réfléchir comment obéir. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. L'exemple de Daniel dans la Bible est très intéressant, parce que c'est un homme qui a vécu sous plusieurs gouvernements mondiaux de son époque. Et étant donné qu'il est aimé par ses empereurs, nous pouvons déduire sans trop d'incertitude qu'il était soumis à l'autorité dans laquelle il était impliqué. Mais ce qui ne l'a pas empêché parfois d'obéir à une instance supérieure alors que le gouvernement civil le lui interdisait. Mais la motivation de Daniel et de ses amis d'ailleurs n'était pas de désobéir. Comme d'ailleurs c'était aussi le cas d'Esther lorsqu'elle s'est présentée devant le roi sans y être conviée. Ou encore comme Moïse devant le Pharaon, qui lui ordonne de ne pas quitter l'Égypte. L'obéissance aux autorités civiles voulait que Moïse s'incline devant le Pharaon et dise « Ok, c'est l'autorité mise en place par Dieu ». Si Daniel et les autres avaient pensé que l'enseignement de Romains 13, inspiré par le même auteur que tout le reste de la Bible, signifiait simplement obéir sans réfléchir à l'autorité politique mise en place, ils n'auraient pas obéi à Dieu. Et les amis de Daniel sont clairs devant le plus puissant empereur. Dans Daniel 3, verset 16, ils disent ceci. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, donc qu'il soit mis dans la fournaise, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main au roi. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as adressée. » Ces trois amis ne sont pas motivés par la désobéissance. Ils disent pas « Ouais, on va désobéir, c'est ça qui nous motive ». Non, ils sont motivés par l'obéissance d'une autorité supérieure. Ils sont motivés à obéir à Dieu. Daniel, plus tard, lorsque ses ennemis ont réussi à faire signer un décret à l'empereur interdisant toute prière à quelqu'un d'autre qu'à lui, n'a pas été motivé par la désobéissance à ce décret. Mais non, il était motivé par l'obéissance à une autorité supérieure à qui il obéissait déjà avant le décret. Il s'est pas tout à coup dit « Ah, faut que j'aille vite prier dans ma chambre ». Pas du tout. Il le vivait déjà avant. Plus tard, on le verra que les disciples de Jésus qui ont désobéi aux autorités spirituelles de l'époque ne l'ont pas fait pour une motivation de vouloir désobéir. Ils étaient motivés par l'obéissance à une autorité supérieure. Dans Actes 4, 19, il est dit « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Il n'est pas question de désobéissance, il est question d'obéissance. Dans le film Courageous, que quelques-uns ont vu ici, à un moment donné, un patron demande à son employé de tricher pour donner des avantages à l'entreprise. L'employé a besoin de son poste, pour nourrir sa famille, il est tenté de faire ce que son patron lui dit. Ne lui doit-il pas obéissance? Et après une nuit de réflexion, il retrouve son patron et lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Parce qu'il est motivé par l'obéissance à une autorité supérieure et qu'il a un rôle dans sa famille. Ce n'est pas la désobéissance qui le motive, mais l'obéissance à une autorité supérieure et son rôle d'autorité dans sa famille. Alors, dans la semaine qui vient, si nous sommes tentés de désobéir à une autorité, réfléchissons à ce qui nous motive. Est-ce vraiment l'obéissance à une autorité supérieure qui nous motive? Ou est-ce notre royaume personnel qui nous motive? Après avoir parlé des structures d'autorité mises en place et avoir compris, je l'espère, que nous sommes appelés à toujours obéir, et ultimement, évidemment, à l'instance supérieure, nous allons prendre quelques instants pour accompagner l'homme parfait et observer comment Jésus s'est comporté face aux différentes autorités. Parce que vous savez, celui qui est en Christ, qui dit, voilà, je me suis converti, j'appartiens à Christ, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Super. Et comment ça se voit dans ta manière de vivre face à l'autorité? Eh bien, on va voir si vraiment on suit l'exemple de Jésus-Christ. Donc, allons voir comment Jésus-Christ a vécu cela. C'est notre troisième point, Jésus a toujours obéi. Alors, la première autorité que Jésus a rencontrée en tant qu'homme fut celle de ses parents. Alors, nous n'avons que peu d'informations sur l'enfance et la jeunesse de Jésus, mais lorsqu'il avait 12 ans, il nous a donné un indice précieux, intéressant. Il faut savoir qu'à 12 ans, c'est l'âge où l'on passe de l'enfance à la responsabilité adulte appelée à croître dans la maturité. Et ce qui s'est passé à ce moment-là nous donne, je pense, une bonne idée de ce que Jésus a vécu en tant qu'enfant et jeune adulte. C'est en fait après qu'il a été retrouvé dans le temple par ses parents, qu'il le cherchait, il est dit dans Luc 2, 51. « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Sa mère conservait ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus a toujours obéi à ses parents tant qu'ils étaient sous la mission de Dieu. Toujours. Parce que si Jésus n'avait pas obéi à ses parents qui lui demandaient des choses justes, eh bien il serait impossible de dire qu'il n'a jamais péché. Jésus a toujours obéi à ses parents lorsqu'ils étaient sous la mission de Dieu. Jésus donc a confirmé l'autorité familiale en la vivant parfaitement en tant qu'enfant. Deuxièmement, l'autorité religieuse. L'autorité religieuse que Jésus a respectée. Et j'en ai une preuve. Lorsqu'il va dans son village, c'est lui qui lit la Torah. On ne fait pas lire la Torah à un jeune homme rebelle et insoumis aux autorités religieuses. Par la suite, dans son ministère, nous voyons que Jésus est confronté aux pharisiens, aux sacrificateurs et même aux souverains sacrificateurs. Et Jésus obéit à tout ce qui est dans la loi de Dieu que ces hommes devaient enseigner. Et Jésus allait même jusqu'à obéir à ce qu'il n'avait pas besoin d'obéir pour ne pas les scandaliser. Regardez avec moi Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, donc là c'est l'impôt du temple si jamais, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?»« Si, dit-il. » Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou tributs? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui répondit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Jésus n'aurait pas besoin de payer l'impôt du temple. Il en est le propriétaire. Mais pour ne pas scandaliser ceux qui ne le reconnaissent pas, Jésus va le payer. Par contre, Jésus va s'élever contre les enseignements des chefs religieux qui vont contre la loi de Dieu. Là, il ne va pas obéir, parce qu'ils ne sont plus sous la mission de Dieu. Son but n'est pas de désobéir même aux traditions ou aux règles des scribes ou que les pharisiens ont mis en place. Mais sa motivation, c'est d'obéir à une autorité supérieure. Quand Dieu dit par exemple d'honorer ses parents et que la tradition religieuse dit que les moyens promis au temple ne peuvent plus être utilisés pour les parents dans le besoin, c'est-à-dire corban, on a vu ça dernièrement, Jésus en appelle plutôt à Dieu qu'à la tradition des hommes qui annule la loi de Dieu. Il dit non, on va obéir à Dieu. Jésus, en obéissant aux autorités spirituelles tant qu'elles vivaient sous la mission de Dieu, a confirmé cette autorité. Jésus n'a pas dit que c'était une autorité qui était mauvaise ou qui n'existait pas, tant qu'elle était vécue sous la mission de Dieu. Troisième autorité, c'est l'autorité civile. Alors c'est vrai que nous ne trouvons pas beaucoup de situations où Jésus a affaire à l'autorité civile qui était les Romains à cette époque-là. Mais nous voyons lors de son procès que ni Pilate, ni Hérode ne trouvent un seul motif de condamnation. Pas une seule désobéissance à l'autorité civile ne peut être trouvée dans toute sa vie. Jésus va aussi clairement d'ailleurs indiquer d'où vient l'autorité civile quand il parle avec Pilate. Dans Jean 19, il est dit, il rentra dans le prétoire, donc Pilate, il dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « À moi, tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. C'est Dieu qui donne le pouvoir, l'autorité au pouvoir civil. Jésus ne rejette pas ce pouvoir. Il le remet simplement à sa place, comme il l'a fait lorsqu'on est venu lui poser la question de l'impôt romain. Vous rappelez cette petite histoire? Dis-nous ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie sur laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. « De César, » répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors on a parfois l'impression, et c'est vrai que j'ai longtemps eu cette impression aussi, que Jésus donne ici une parité, 50% à César, 50% à Dieu. Mais c'est pas le cas. Parce que qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Tout. Tout. Jésus n'est pas en train de donner ici une autorité égale à César et à Dieu. Non. Il indique qu'il faut en fait se soumettre à l'autorité supérieure qui est ultimement Dieu. Et il indique simplement aux citoyens qui utilisent les voies romaines, qui profitent de la paix romaine, etc., de se soumettre à l'état dans lequel il vit. Toute autorité inférieure qui ne demande pas quelque chose contre Dieu, mais il n'y a pas de raison de désobéir. Rendez à César ce qui est à César. Et si l'État demande quelque chose qui est contre Dieu, ce n'est pas la motivation de désobéir qui doit faire agir, mais la motivation d'obéir à l'autorité supérieure. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus, en obéissant aux autorités civiles, tant qu'elles étaient sous la mission de Dieu, a confirmé cette autorité. Jésus à respecter les autorités en place. Et Jésus a parfaitement accompli la volonté du Père, l'autorité suprême. Philippiens est un texte tellement fort. Philippiens 2, verset 6, nous dit ceci. « Lui, donc Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans une situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu et Père. » Jésus a parfaitement obéi dans sa mission en tant qu'homme. Et Jésus-Christ reviendra en tant qu'autorité suprême, et cette fois-ci pour juger le monde. Serons-nous placés à gauche ou à droite lors du jugement? Serons-nous placés à gauche pour les tourments éternels ou à droite pour la paix et le repos éternel? Jésus est venu en tant que sauveur obéissant à toutes les autorités sous la mission de Dieu, et il était parfait. Et dans cette perfection, il a pris sur lui la juste colère de Dieu qui pèse sur toute personne qui n'a pas parfaitement obéi aux autorités que Dieu a mis en place sous sa mission. Et là, la question qu'on peut se poser, mais c'est, sommes-nous conscients de notre péché? Sommes-nous conscients que nous méritons le jugement? Alors si tu es conscient que tu as péché, que tu n'as pas obéi à toutes les autorités que Dieu a mis en place sous sa mission, eh bien n'hésitons pas à revenir vers Jésus-Christ. Se réjouir de son œuvre libératrice, lui qui a complètement accompli cela. Saisir le salut de notre roi en cherchant à lui obéir pour lui plaire en toutes circonstances. Et si tu n'es pas conscient de ton péché, tu dis non mais bon moi franchement c'est rien par rapport peut-être à d'autres. Mais moi je peux que prier que le Saint-Esprit éclaire ton cœur afin que tu puisses être délivré de ce péché. Parce que l'ennemi le plus dangereux est celui qu'on ne parvient pas à identifier. L'ennemi le plus dangereux est celui qu'on ne parvient pas à identifier. Donc je prie, moi, que le Saint-Esprit vous permette d'identifier ce péché dans votre vie, afin que vous puissiez en être délivré. Nous arrivons donc à la conclusion de cette réflexion du jour. Ce n'est donc qu'en comprenant bien la structure d'autorité biblique que nous serons en mesure de savoir à qui nous devons obéir. Puisque la question, c'était, à qui devons-nous obéir? Donc, étant enfant, c'est aux parents que l'on obéit, même si cela ne nous plaît pas, tant qu'ils sont sous la mission de Dieu. Il faut donc d'abord prouver qu'ils ne sont pas sous la mission de Dieu pour leur dire que vous ne voulez pas leur obéir et leur dire « Moi, j'obéis à une autorité supérieure. » La Bible est simple. Enfant, obéissez à vos parents. C'est nous qui compliquons. Par exemple, en réagissant ainsi, « Je n'obéis que si je comprends et si je suis d'accord. » Ce qui revient à dire « Je n'ai aucune confiance en ta bienveillance à mon égard et tu n'as pas d'autorité sur moi. » En étant citoyen, c'est au magistrat que l'on obéit, même si cela ne nous plaît pas tant qu'ils sont sous la mission de Dieu. Mais si l'État veut prendre une autorité spirituelle ou éducative qu'ils n'ont pas reçue de Dieu, nous pouvons légitimement dire que nous refusons, car nous obéissons à une autorité supérieure. Mais dans ce cas, soyons certains que nous obéissons à Dieu et non pas à un autre royaume. Rappelons-nous que notre motivation n'est jamais de désobéir, mais d'obéir, même si parfois l'autorité supérieure nous engage à suivre, ou à ne pas suivre plutôt, ce qui est demandé par une autorité qu'il a mise en place. Cela signifie que dans notre situation sanitaire, avec le coronavirus par exemple, nous devons toujours nous poser la question si nous obéissons vraiment à Dieu lorsque nous entrons dans un chemin de désobéissance aux autorités civiles. L'obéissance à Dieu doit être claire et sans équivoque. Ce ne sont pas nos préférences, notre petit royaume ou nos avis que nous devons suivre, mais celui de Dieu. Suivons l'exemple de Jésus-Christ qui a toujours obéi. Nous allons prier. Éternel, nous sommes rassurés de savoir que nous pouvons toujours obéir. Nous n'avons pas besoin de nous dire « il faut que je désobéisse ». Et donne-nous cette grâce, Seigneur, de comprendre ta volonté, de saisir ce que toi tu désires, d'être capable de nous dépouiller totalement des revendications de notre propre petit royaume, ou des revendications de royaume de ceux qui peuvent être autour de nous, afin de chercher ce que toi tu désires. Aide-nous, Seigneur, aussi à être capables d'accepter des choses qui ne nous plaisent pas, mais qui ne sont pas en dehors de la mission que tu confies. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous voyons que Jésus-Christ a vécu une vie d'obéissance parfaite et complète. Nous voyons dans la Bible que tous ceux qui n'ont pas fait ce qu'un gouvernement leur a dit n'étaient pas motivés par la désobéissance. Ils étaient motivés par une obéissance sans faille envers toi, qui est l'autorité supérieure. Éternel, nous voulons aussi venir devant toi pour pour te demander pardon pour le pays dans lequel nous sommes, où ton nom est écarté, toujours plus. Où nous avons même des motions, on veut enlever ton nom dans la Constitution, où on aimerait en fait clairement définir ce qui est malheureusement dans la réalité, que tu n'es pas l'autorité suprême sur l'État, sur les entreprises, sur la famille, et même parfois sur l'Église. Seigneur, j'aimerais te prier vraiment de nous rendre humbles. Nous ne savons pas mieux que les autres, mais nous voulons être fidèles à ce que toi tu nous enseignes. Et nous voulons te prier de nous aider à être cette colonne et cet appui de la vérité. Et nous comptons sur l'œuvre de ton esprit afin que nous puissions humblement apporter l'évangile de Jésus-Christ qui nous libère des chaînes de la désobéissance. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.